Chapitre 52. Contact. Il n'aurait jamais pensé revenir là, encore moins pour une mission aussi étrange. Quand il entra dans Discovery, le vaisseau était déjà loin derrière Leonov en fuite et s'élevait lentement vers son apogée, le point culminant de son orbite, dans la région des lunes extérieures. Nombre de comètes errantes avaient jadis tourné autour de Jupiter en suivant la même ellipse allongée, attendant que le jeu des gravités rivales décide de leur sort. Toute vie avait déserté les cabines et les couloirs familiers. Les hommes et les femmes qui avaient brièvement réveillé le vaisseau avaient écouté son avertissement. Ils étaient peut-être en sécurité, mais c'était loin d'être certain. Car au cours de ces dernières minutes, il comprit que ceux qui le contrôlaient ne savaient pas toujours prédire le résultat ultime de leur jeu avec le cosmos. Ils n'avaient pas encore atteint l'ennui suprême de l'omnipotence absolue. Leurs expériences ne réussissaient pas toujours. Les preuves de leurs échecs innombrables étaient éparpillées dans l'univers entier, certaines si peu visibles qu'elles se perdaient dans l'arrière-plan cosmique, d'autres à ce point spectaculaire qu'elles fascinaient les astronomes d'un millier de planètes. Ce n'était plus qu'une question de minutes, ici, avant le résultat final, et il se retrouvait une fois de plus seul avec Hal. Dans son existence précédente, il ne pouvait communiquer que par l'intermédiaire de paroles malhabiles prononcées dans un micro ou épelées sur un clavier. Maintenant, leurs pensées s'entrecroisaient à la vitesse de la lumière.
« Me comprends-tu, Hal ?»«
Oui, Dave. Mais où es-tu ?
Je ne te vois sur aucun moniteur. »«
C'est sans importance.
J'ai de nouvelles instructions pour toi. » Sur les circuits R23 à R35, les infrarouges venus de Jupiter augmentent rapidement. Je vais te donner une série de valeurs limites. Dès qu'elles seront atteintes, tu devras diriger l'antenne principale vers la Terre et envoyer le message suivant autant de fois que possible.
Mais cela implique de rompre le contact avec Leonov. Je ne serai plus capable de transmettre mes observations de Jupiter suivant le programme que m'a donné le docteur Chandra.
Exact. Mais la situation a changé. Annule et accepte la priorité Alpha. Voici les coordonnées pour AE-35.
En une fraction de microseconde, un souvenir lui traversa l'esprit. Étrange qu'ils doivent à nouveau s'occuper du système d'orientation de l'antenne, le circuit AE-35 dont la panne prétendue avait conduit Frank Poole à la mort. Cette fois, tous les circuits lui étaient accessibles, aussi clairement qu'autrefois les lignes de sa main. Il n'y aurait pas de fausse alerte, et de toute façon, il n'y avait plus de danger.
Instruction confirmée, Dave. C'est bien de retravailler avec toi, Dave. Ai-je convenablement rempli les objectifs de ma mission?
Oui, Hal, tu as très bien travaillé. Maintenant, voici le dernier message que tu transmettras à la Terre, et ce sera le plus important que tu aies jamais envoyé.
Dis-le-moi, Dave, je t'en prie.
Mais pourquoi as-tu dit le dernier?
Pourquoi, en effet? Il passa plusieurs millisecondes à réfléchir à cette question et se rendit compte alors d'une sorte de manque, d'une sensation de vide qui était déjà là, mais sans qu'il en soit conscient, car jusqu'ici, l'afflux des expériences nouvelles l'avait constamment recouverte. Il avait une idée de leur plan et ils avaient besoin de lui. Très bien. Lui aussi avait des besoins, peut-être même d'une certaine manière des émotions. C'était son dernier lien avec le monde des hommes et la vie qu'il avait jadis connue. Il lui avait accordé une fois ce qu'il avait demandé, et il serait intéressant d'éprouver les limites de leur bienveillance, si du moins ce terme pouvait leur être appliqué. Et il leur serait certainement facile d'accéder à sa requête. Ils avaient déjà amplement fait preuve de leur pouvoir en détruisant le corps de David Bowman, désormais inutile, sans mettre fin à l'entité David Bowman. Il l'avait entendu, bien sûr, et il perçut comme l'écho lointain d'un sourire olympien. Mais il ne put détecter ni acceptation ni refus.
« J'attends toujours ta réponse, Dave. » Correction, Hal. J'aurais dû dire ton dernier message pendant longtemps. Pendant très longtemps.
Il anticipait leurs actions, en fait, il essayait de leur forcer la main.
mais il comprenait sûrement que son désir n'était pas déraisonnable. Aucune entité consciente ne peut survivre sans dommage à une éternité de solitude. Même s'il ne le quittait jamais, il avait aussi besoin de quelqu'un, une sorte de compagnon, plus proche de son propre niveau d'existence. Les langages humains ont de nombreux mots pour désigner cette attitude. Le culot, l'effronterie, le chutzpa. Il se souvint, grâce à la mémoire totale dont il jouissait maintenant, qu'un homme d'État de la Révolution française avait un jour déclaré « De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace ». C'était peut-être une des caractéristiques humaines qu'ils appréciaient, voire qu'ils possédaient eux aussi. Ils le sauraient bientôt. Al, regarde les signaux des canaux infrarouges 30, 29, 28. Cela ne va plus tarder. La crête se déplace vers les hautes fréquences. J'informe le docteur Chandra qu'il y aura une interruption de mes transmissions. Unité AE35 activée. Antenne principale orientée. Orientation confirmée et verrouillée sur signal Terre 1. Début de message. Tous ces mondes. Tout s'était effectivement joué à la dernière minute. Ou peut-être, après tout, les calculs étaient-ils d'une précision parfaite. Les 11 mots du message eurent à peine le temps d'être répétés une centaine de fois avant que le vaisseau ne soit frappé par une vague de chaleur pure, inimaginable. Retenu par la curiosité et par la peur grandissante de l'interminable solitude qui l'attendait, l'être qui avait été David Bowman, commandant du vaisseau USS Discovery, regarda le métal de la coque bouillir et s'évaporer. Pendant quelque temps, le vaisseau conserva plus ou moins sa forme première, puis les roulements du carrousel se grippèrent et libérèrent instantanément l'énergie accumulée par la rotation des énormes gyroscopes. Il y eut une explosion silencieuse, et le vaisseau se désintégra en millions de fragments incandescents qui s'éparpillèrent dans l'espace. « Hello, Dave. Que s'est-il passé? Où suis-je ?» Il n'avait pas su qu'il était capable de se détendre, de savourer un instant de triomphe. Souvent déjà, il avait eu l'impression d'être un animal domestique dirigé par un maître dont les mobiles n'étaient pas entièrement énigmatiques et dont il pouvait parfois modifier la conduite selon ses propres désirs. Il avait demandé un os, on lui avait jeté un os. « Je t'expliquerai plus tard, Al. Nous avons tout notre temps. » Ils attendirent que les derniers fragments du vaisseau aient disparu, qu'ils soient même incapables de les détecter, puis ils s'en allèrent contempler la nouvelle aurore à l'endroit qui leur avait été désigné et attendre au fil des siècles qu'on les convoque de nouveau. Il n'est pas vrai que les phénomènes astronomiques occupent invariablement une durée astronomique. L'effondrement ultime d'une étoile avant que ses débris ne rebondissent en une supernova ne prend qu'une seconde. Par comparaison, la métamorphose de Jupiter eut presque une allure de promenade. Il fallut pourtant plusieurs minutes à Sacha pour arriver à en croire ses yeux. Il était en train d'effectuer un examen de routine au télescope, comme si l'on pouvait parler de routine à un tel moment, quand la planète se mit à dériver hors de son champ de vision. Il crut d'abord que les stabilisateurs de l'instrument étaient défaillants, puis il se rendit compte, avec un choc qui bouleversa toute sa conception de l'univers, que c'était Jupiter qui bougeait, pas le télescope. Car il en avait la preuve sous les yeux. Deux des plus petites lunes étaient dans le champ et elles ne bougeaient pas. Il diminua le grossissement pour pouvoir observer toute la surface de la planète, devenue d'un gris tavelé comme lépreux. Au bout de quelques minutes, toujours incrédule, il comprit ce qui se passait, mais sans y croire vraiment. Jupiter ne s'écartait pas de son orbite immémoriale, mais ce qui lui arrivait était tout aussi peu vraisemblable. Jupiter rétrécissait. Si vite que le bord du disque se déplaçait dans le champ de l'instrument à mesure qu'il voulait le fixer. En même temps, la planète devenait d'un blanc laiteux, de plus en plus brillant, prenant un éclat qu'elle n'avait jamais eu depuis plusieurs siècles que l'homme la regardait. Ce n'était sûrement pas la lumière du soleil qui pouvait. À cet instant, Sacha comprit brusquement ce qui se passait réellement, mais sans comprendre pourquoi, et déclencha l'alerte générale.
Quand Floyd atteignit la cabine d'observation moins de 30 secondes plus tard, il fut d'abord frappé par la lumière aveuglante qui inondait les fenêtres et dessinait sur les parois de grands ovales blancs. L'éclat était si intense qu'il dut détourner les yeux. Le soleil lui-même n'était pas aussi violent. Stupéfait, il n'associa pas immédiatement cette débauche de lumière avec Jupiter. Une idée lui traversa l'esprit. Supernova. Idée qu'il repoussa immédiatement, même la plus proche voisine du soleil, Alpha du Centaure, si elle avait explosé, n'aurait pas eu cet éclat fantastique. Soudain, la lumière diminua. Sacha avait baissé les écrans solaires extérieurs. Maintenant, on pouvait regarder directement l'origine des rayons et voir que ce n'était qu'un point minuscule dans l'espace, une étoile parmi d'autres, mais réduite à l'essentiel. Cela non plus n'avait rien de commun avec Jupiter, que Floyd avait regardé quelques minutes avant et qui était encore quatre fois plus grand que le Soleil rapetissé par la distance. Sacha avait bien fait de baisser les écrans. Un instant plus tard, l'étoile minuscule explosa, et même à travers les filtres, on ne pouvait soutenir son éclat à l'œil nu. Mais cet ultime orgasme lumineux ne dura qu'une fraction de seconde, et Jupiter, ou ce qui était autrefois Jupiter, se remit à grossir. Sa croissance continua jusqu'à dépasser de très loin la taille qu'elle avait avant sa transformation. Bientôt, la sphère lumineuse radoucit son éclat, atteignit à peu près la brillance du soleil et se stabilisa. Floyd put voir que c'était en réalité une sphère creuse et que l'étoile centrale, au milieu, était toujours visible. Il fit un rapide calcul mental. Le vaisseau était à plus d'une minute-lumière de Jupiter, mais cette sphère lumineuse en expansion, qui prenait maintenant l'aspect d'un anneau cerclé de flammes, recouvrait déjà un quart du ciel, ce qui signifiait qu'elle s'approchait d'eux à, mon Dieu, presque la moitié de la vitesse de la lumière. Le vaisseau serait rattrapé en quelques minutes. Depuis l'annonce de Sacha, personne n'avait encore prononcé un mot. Certains dangers sont à ce point spectaculaires, si loin des expériences courantes, que l'esprit refuse d'admettre leur réalité et peut contempler une catastrophe imminente sans l'ombre d'une appréhension. L'homme qui regarde un raz de marée, une avalanche qui descend sur lui, ou le cœur vertigineux d'un cyclone sans essayer de s'enfuir, n'est pas nécessairement paralysé par la peur ou résigné à un sort inéluctable. Il se peut simplement qu'il ne puisse croire que le message transmis par ses yeux le concerne personnellement. Tout cela arrive à quelqu'un d'autre. Comme on aurait pu s'y attendre, Tania fut la première à rompre l'envoûtement en distribuant des ordres. Floyd et Vassili se précipitèrent sur la passerelle.
« Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? »
demanda-t-elle de but en blanc. « En tout cas, nous ne pouvons pas nous enfuir, » pensa Floyd. « Mais nous pouvons peut-être améliorer nos chances. »«
Le vaisseau est orienté de travers, » dit-il. « Ne devrait-on pas tourner le dos à ce truc pour lui offrir une cible plus réduite et interposer autant de masques possible pour faire écran aux radiations ?»
Vassili promenait déjà ses doigts sur les commandes.
« Vous avez raison, Woody. Bien qu'il soit déjà trop tard pour ce qui concerne les radiations gamma et les rayons X. Mais il peut y avoir des neutrons plus lents et Dieu sait quoi d'autre qui nous court après. »
Les taches lumineuses commencèrent à descendre le long des cloisons à mesure que le vaisseau tournait lourdement sur son axe, puis disparurent entièrement. Léonov était maintenant orienté de sorte que la plus grande partie de sa masse abritait sa fragile cargaison humaine des radiations qui allaient les engloutir. « Allons-nous réellement sentir l'onde de choc ?» se demanda Floyd. « Ou bien les gaz en expansion seront-ils trop raréfiés pour avoir la moindre influence mécanique au moment où nous les atteindrons ?» Vu par les caméras extérieures, l'anneau de feu remplissait presque entièrement le ciel, mais il pâlissait très vite. On pouvait même voir briller quelques étoiles au travers.
« Nous allons survivre, » pensa Floyd. « Nous avons été témoins de la destruction de la plus grande des planètes, et nous avons survécu. »
Puis les caméras ne montrèrent plus rien que des étoiles, l'une d'elles infiniment plus brillante que les autres. La bulle de feu soufflée par Jupiter, si impressionnante fut-elle, les avait dépassées sans dommage. À une telle distance de sa source, seuls les instruments du vaisseau s'étaient rendus compte de son passage. À bord de Léonov, la tension retombait peu à peu. Comme toujours en pareilles circonstances, les gens se mirent à rire, à faire des plaisanteries puériles. Floyd les entendait à peine. Malgré son soulagement d'être resté en vie, il était envahi par la tristesse.
quelque chose de gigantesque et de merveilleux avait été détruit. Jupiter, toute sa grandeur, toute sa beauté, tous ses mystères à jamais indéchiffrés, avait cessé d'exister. Le père de tous les dieux avait été abattu à la fleur de l'âge. Mais il y avait une autre manière de voir les choses. Ils avaient perdu Jupiter. Qu'avaient-ils gagné en retour? Tania, choisissant bien son moment, frappa quelques coups secs pour attirer l'attention.
« Vassili, les dégâts ?»«
Rien de sérieux. Une caméra brûlée. Les compteurs de radiation sont tous au-dessus de la normale, mais n'approchent pas des niveaux dangereux. »
« Katerina, vérifie le dosage total que nous avons reçu. On dirait que nous avons eu de la chance, à moins qu'il n'y ait d'autres surprises. Nous devons en tout cas des remerciements à Bowman et à vous, Keywood. Avez-vous la moindre idée de ce qui s'est passé ?»«
Seulement que Jupiter s'est transformé en soleil. » ?»«
J'avais toujours cru qu'il était trop petit pour ça.
Quelqu'un n'a-t-il pas appelé un jour Jupiter le soleil qui a échoué ?»«
C'est vrai, » dit Vassili. Jupiter est trop petit pour que la fusion se déclenche sans qu'on l'aide. »
Tu veux dire que nous venons d'assister à un exemple de grands travaux astronomiques?
Sans aucun doute. Et maintenant, nous savons ce que préparait Zagadka.
Quel truc a-t-elle employé? Si tu avais décroché le contrat, Vassili, comment allumerais-tu Jupiter?
Vassili réfléchit une minute, puis haussa les épaules en souriant.
« Je ne suis qu'un théoricien de l'astronomie, je n'ai pas beaucoup d'expérience dans ce genre d'affaires. Mais, voyons. Eh bien, si on ne me permet pas d'ajouter 10 fois la masse de Jupiter, ni de toucher à la constance gravitationnelle, et je suppose que je dois augmenter la densité de la planète. Mais c'est une idée. »
Sa voix se perdit dans le silence. Tous l'attendaient sans impatience, jetant de temps en temps un coup d'œil au moniteur. L'étoile qui avait été Jupiter semblait plus stable après sa naissance explosive, et c'était maintenant un point lumineux éblouissant, apparemment presque aussi brillant que le Soleil.
Je ne fais que penser tout haut, mais on pourrait procéder ainsi. Jupiter était surtout composé d'hydrogène. Si on pouvait en transformer une bonne partie en éléments nettement plus denses, voire en neutrons, qui sait, ces éléments tomberaient vers le noyau. C'est peut-être ce que ces milliards de Zagadka étaient en train de faire avec les gaz qu'elles aspiraient. La nucléosynthèse, construire des éléments lourds à partir de l'hydrogène. Voilà qui serait utile à connaître. Ne plus jamais manquer de métaux, l'or aussi bon marché que l'aluminium.
Mais comment cela expliquerait-il ce qui s'est passé?
Demanda Tania.
Une fois le noyau devenu suffisamment dense, Jupiter s'effondrerait sur lui-même. Ce ne serait qu'une question de secondes. La température monterait assez pour déclencher la fusion. Oh, je peux prévoir une quantité d'objections. Comment dépasser le minimum ferreux? Que deviendrait le transfert de radiation? La limite de Chandrasekhar? Peu importe. Cette théorie n'est qu'un début. Je trouverai les détails plus tard. Ou une meilleure théorie.
J'en suis sûr, Vassili, dit Floyd. Mais il y a une question plus importante. Pourquoi ont-ils fait ça?
Pour nous avertir,
proposa Katerina par l'intercom.
De quoi? Nous l'apprendrons plus tard.
Je ne pense pas qu'on puisse croire, dit timidement Xenia, que c'était un accident.
Ce qui arrêta net la discussion pendant plusieurs secondes.
Quelle idée terrifiante, s'écria Floyd. Mais je pense que nous pouvons l'éliminer.
Si c'était le cas, il n'y aurait pas eu d'avertissement.
Peut-être. Et quand vous déclenchez un incendie de forêt par négligence, vous pouvez au moins prévenir les voisins.
Et il y a encore quelque chose que nous ne saurons probablement jamais, se plaignit Vassili. J'avais toujours espéré que Carl Sagan avait vu juste et qu'il y avait de la vie sur Jupiter.
Nos sondes n'ont jamais rien trouvé.
Et crois-tu qu'elles avaient la moindre chance? Découvrirais-tu de la vie sur la Terre si tu voyais de loin quelques hectares du Sahara ou de l'Antarctique? C'est à peu près ce que nous avons fait sur Jupiter.
Hé, dit Brailovsky, où en sont Discovery et Hall?
Sacha alluma le récepteur longue distance et se mit à chercher autour de la fréquence de la balise radio. Pas le moindre signal.
Au bout d'un certain temps, il dut annoncer à l'équipage qui attendait sans rien dire « Discovery n'est plus là ». Personne ne regarda le docteur Chandra, mais il y eut quelques condoléances embarrassées comme pour consoler un père qui viendrait de perdre son fils. Mais Hal leur réservait une dernière surprise.